Vous écoutez Radio Kapi, il est 7h à Kinshasa, 8h à Kindu, dans les Maniema.
Radio Kapi.
Oh Kapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'actualité sur Radio Kapi. Inauguration hier samedi de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani par le président de la République, Félix Tshisekedi. Cet aéroport qui vient d'être réhabilité est désormais à mesure d'accueillir plus de passagers et des avions de gros tonnage qu'avant. Une centaine d'ex-combattants se trouvant au site de Django en Ituri font face à une précarité sans précédent pour leur survie. Ils demandent au gouvernement d'accélérer les processus de désarmement et démobilisation qui traînent depuis 2 ans en vue de leur réinsertion dans leurs communautés respectives. Notre invité est le chef de la police MONUSCO à Goma. Les commissaires Dorothy Guanyama parlent de la sensibilisation à la prévention du cancer du sein organisée à l'intention des éléments de la police MONUSCO le vendredi. Bonjour à tous. Ce journal part de la Tshopo. L'aéroport international de Bangoka à Kisangani est une pierre angulaire posée pour le développement de cette province et l'avenir de la RDC. Déclaration du vice-premier ministre des Transports et Voies des Communications hier samedi. C'est à l'occasion de l'inauguration de cet aéroport par le président de la République. Jean-Pierre Bemba a précisé que cet aéroport pourra notamment accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe, ainsi que recevoir des avions de gros tonnage. On l'écoute, il donne les caractéristiques des infrastructures réhabilitées.
La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire. L'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays.
Concernant toujours l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, en quoi consistent les travaux effectués pour la réhabilitation de cette infrastructure aéroportuaire? La réponse avec Léonard Ngoma, directeur général de la Régie des voies aériennes.
Les tableaux d'intervention opérés sur la plateforme aéroport de Kisangani-Bangoka se présentent ainsi comme suite. Pour la modernisation des chaussées aéronautiques, les travaux de génie civil suivants ont été réalisés par l'entreprise China Fest Engineering CFHEC en sigle. Il s'est agi de la réhabilitation de la piste d'envol et de ses dépendances, du réaménagement de la bretelle et de l'agrandissement de l'aire de stationnement d'aéronefs, appelé tarmac pour les coûts globales de 21 543 408.26 cents, financé par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, et c'est dans le cadre des projets prioritaires de sécurité aérienne phase 2.
À la même occasion, le président de la République a remis des jeeps pick-up aux administrateurs des territoires des provinces de la Tshopo, de l'Ituri, du Bas-Ouélé et du Haut-Ouélé, ainsi qu'à la police nationale. Des tracteurs agricoles ont été remis aux gouverneurs des 4 provinces de l'ex-Grande Orientale. C'est un dossier signé Alain Irung et Jacques Moukonkolé. Ici à Kinshasa, le lancement de travaux de réhabilitation de la voirie de la ville s'est fait. Le gouverneur Daniel Bumba a donné les go ce samedi dans la commune de Kinshasa. Une réhabilitation programmée à travers toute la ville province. L'exécution des travaux est accordée à l'entreprise Safrimex. Ce lancement intervient 2 semaines après les échanges avec les différents bourgmestres sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. Reportage d'Étienne Lissoumbou.
Rempli de joie, la population de la commune de Kinshasa est présente à la cérémonie des lancements des travaux de réhabilitation de la voirie de la capitale. Sur le champ, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki invite la population à une surveillance lors de l'exécution des travaux.
La population, ils doivent être vigilants en regardant et encourager l'entreprise qui effectue les travaux. Qu'ils ne soient pas l'objet de menaces ni dérangements, qu'ils vivent ainsi jusqu'à la fin des travaux.
Construire les routes est la mission que l'entreprise Safrimex reçoit. Son représentant présente ici le plan de réalisation des travaux.
La cérémonie de ces jours consiste au lancement des travaux de réhabilitation et de construction de 5 avenues de Kinshasa pour une longueur totale de 5 km.
Très émus pour cette volonté des gouvernements provinciaux, les habitants exigent du sérieux et l'achèvement de tous les travaux.
Aux Kinois en général de la commune de Kinshasa Baroum Lingwala, de prendre ce projet dans leurs propres mains.
Comme moi je n'arrive plus à vos marchés parce que l'état de la route est très mauvais. Comme on répare déjà les routes, je suis très ravi et maintenant nous devons être très vigilants pour qu'il n'y ait pas de vols, qu'on mette du sérieux pour terminer les travaux.
Signalons que ces travaux seront réalisés en 2 phases. La première se termine à la fin du premier trimestre de
Kinshasa toujours, au moins 4000 jeunes ont été inscrits au programme varié des formations lors de la première édition foire de la formation professionnelle organisée du 24 au 26 octobre à Kinshasa. Le ministre de la formation professionnelle s'est réjoui d'avoir atteint l'objectif de susciter de l'intérêt à ces secteurs d'apprentissage des métiers. La première ministre a fait savoir que cette foire a prouvé l'engagement du gouvernement d'œuvrer à la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de la vie des Congolais. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Durant 3 jours, cette activité foraine a voulu réformer le système éducatif congolais en orientant la formation vers plus d'adéquation entre emploi et les opportunités à chaque secteur et région d'activité. Ce forum a également visé le renforcement de la formation professionnelle vers les secteurs innovants pour améliorer l'orientation de la formation en fonction de la demande. Pour cela, le ministre de la formation professionnelle a plaidé pour l'intégration de la formation professionnelle dans tout projet de développement à travers les pays. Marc Ekila.
Le financement de la formation professionnelle favorisant plus d'inclusion par diverses ressources publiques et privées disponibles en intégrant la prise en compte de la formation dans tout projet de développement dont la RDC serait bénéficiée.
De son côté, la première ministre a indiqué que la tenue de cette foire
est l'une des preuves de la volonté du gouvernement
d'améliorer non seulement l'apprentissage des métiers, mais également l'accès à l'emploi des jeunes. Judith Souminois.
Le ministère de la formation professionnelle vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'œuvrer pour création d'emplois.
Cette première édition de la foire de la formation professionnelle a été placée sous le thème « Formation professionnelle, levier du développement du capital humain et de la croissance économique ».
En Ituri, je le disais au sommaire, une centaine d'ex-combattants issus des différents groupes armés qui ont adhéré au programme de désarmement et démobilisation se disent abandonnés par les gouvernements au site de Django à 10 de kilomètres de Bounia. Ils sont dépourvus de tout. Pas de vivres, d'eau ni de médicaments. Parmi eux, 20 sont malades. Ils disent également n'avoir jamais bénéficié des formations professionnelles pour leur réinsertion dans la communauté depuis environ 2 ans. Reportage d'Isaac Remoyope qui s'est rendu sur place.
Ils sont au total 135 combattants, dont 3 femmes issues des différents groupes armés, Codeco, FPIC, Zahir, Actif en Ituri et Mai Mai Veni de Pienge dans la province voisine de la Tchopo. Selon leurs témoignages, ils étaient bien pris en charge au début du processus, mais depuis environ 1 année, les conditions de vie se sont nettement détériorées. Ils passent plusieurs mois sans assistance à vivre, à l'exception de quelques interventions ponctuelles pour une ration d'une à 2 semaines, ce qui oblige certains à faire des travaux journaliers dans des villages proches du site. D'autres ont entrepris des activités agricoles agricole pour la survie, l'un de ses ex-combattants. Nous nous débrouillons pour la survie. On passe 2 mois sans vivre, pas de savon, rien du tout. La prise en charge médicale n'est pas également bien assurée. Une vingtaine de ses ex-combattants souffrent de diarrhées apparentées à la dysenterie. Ils sont isolés des autres ex-combattants pour éviter la propagation de cette maladie. Ils expriment leur inquiétude. Je viens d'enregistrer 25 personnes qui sont gravement malades, surtout des maux de tête et de diarrhées accompagnés de sang. Ils vont à la toilette 4 fois par jour. Ici au site, l'hygiène laisse vraiment à désirer. Ces anciens miliciens demandent au gouvernement d'accélérer le processus des DDRCS qui traînent depuis 2 ans en vue de leur insertion dans leurs communautés respectives. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu, où la situation sécuritaire est relativement calme dans le territoire de Lubero, annonce du colonel Alain Kiwewa, l'administrateur du territoire. Selon lui, cet accalmie s'observe depuis le début des opérations conjointes des armées congolaises, FRDC et ougandaises UPDF en septembre dernier contre les rebelles des ZDF dans le secteur de Bapéré. Tout en plaçant la confiance aux autorités et aux FRDC, il estime que cette guerre prendra fin. Le colonel Alain Kiwewa est joint au téléphone par André Kitenge.
Actuellement, la situation sécuritaire est relativement calme, sauf imprévu dans le territoire de Lubero. La population de Lubero a pleinement confiance à nos forces de défense et de sécurité et nous avons l'espoir que cette guerre prendra fin un jour. Et nous remarquons également la continuité des opérations coalition UPDF-FARDC au niveau du secteur de Bapéré et donc dans le nord-ouest de Lubero. Donc les opérations continuent. Et les terroristes EDF est en perte de vitesse en ce moment. Nous avons toujours confiance à nos autorités. Nous avons confiance également à notre armée.
Nord Kivu toujours, des rudes combats ont été signalés hier samedi dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Après la précaire accalmie de vendredi, les rebelles du M23 soutenus par les éléments de l'armée rwandaise ont simultanément lancé des attaques sur plusieurs fronts dans la région. Conséquence, les mouvements des populations s'intensifient. Parlons santé dans ce journal. Au Congo central, les cas confirmés des monkeypox ne font que croître. D'après les bulletins épidémiologiques de Mpox de la semaine 42, partant du 14 au 21 octobre, 31 cas suspects et des nouveaux cas confirmés par les laboratoires de l'INRB à Kinshasa sont notifiés. Selon ces documents, à cause de l'influence de la forêt de Mayombe sur la population, l'antenne du programme élargi de vaccination des Boma dans l'ex-district du Bafle est la plus touchée avec 13 cas confirmés à elle seule depuis le début de la maladie dans la province. Les points avec Nana Plurich Mambou.
Selon le bulletin épidémiologique de Mpox de la province du Congo central, 25 zones de santé sont touchées sur les 31 que compte la province. En cette 42e semaine, 4 cas confirmés par les laboratoires de l'INRB et 31 cas suspects sont notifiés. Les zones de santé dans l'ex-district du Bas-Fleuve ont à elles seules 317 cas suspects et 13 confirmés. La raison, d'après Dr Bonheur Titekou, chef de division provinciale de la santé, c'est la présence de la forêt de Mayombe. La population qui vit majoritairement de la chasse ne respecte pas les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Ils manipulent les animaux morts et consomment la viande des brousses mal cuites. Dans le cadre du contrôle de cette maladie et de la lutte contre son expansion, les équipes de la coordination provinciale ont reçu dans la même semaine une dotation de l'OMS en kit de prélèvement des échantillons des laboratoires. Actuellement, ces équipes mènent une sensibilisation communautaire dans les 4 zones de santé à forte prévalence de Mpox, dont celle de Kangou à Lukula. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Plus de 100 personnes, dont 65 femmes, ont bénéficié vendredi des soins gratuits des casques bleus de la MONUSCO à Boga. C'est à environ 120 km au sud de Bounia, dans les territoires d'Irumu, en Ituri. Les bénéficiaires sont des membres de la communauté locale affectée par les conflits armés et qui manifestaient certaines pathologies, indiquent des sources de la mission onusienne. Les leaders locaux ont été également sensibilisés au processus de paix en vue de promouvoir la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la collaboration entre les forces de sécurité et la population, mais aussi aux mécanismes d'alerte précoce pour une meilleure protection de la population. Dans la province du Maniema, le chef de bureau UNICEF Nord Kivu et Maniema annonce pour bientôt l'installation au Maniema du bureau de l'UNICEF avec toutes ses entités. Afua Sosomadi l'a déclaré à la presse après ses échanges avec l'autorité provinciale. Selon ces derniers, la situation déplorable des enfants du Maniema serait la motivation à classer le Maniema dans les programmes UNICEF 2025-2029. Afua Sosomadi est dans ses propos recueillis par Florence Kizan.
L'UNICEF, à partir de son programme du cycle 2025 à 2029, prévoit installer un bureau UNICEF ici avec toutes ses entités au Maniema afin d'apporter un soulagement à la population des enfants. Comme vous le savez bien, l'UNICEF c'est pour les enfants. L'UNICEF veut le bien-être des enfants. Voilà, la situation elle est encore déplorable, qu'on le reconnaisse. L'enfant du Maniema a besoin d'être scolarisé. L'enfant du Maniema a besoin de la santé. Tous les enfants doivent être vaccinés. Il y a encore des enfants zéro dose qui existent dans la province de Maniema alors que le programme PEV est fonctionnel. Ce sont des aspects comme ça. L'enfant du Maniema a besoin aussi de la nutrition. L'autorité était d'abord très très contente parce que ça faisait déjà partie des points relevés qu'il attendait à nous poser. L'autorité a pris l'information. Ça, c'est un soulagement. Moi, ce que je retiens beaucoup de l'autorité, c'est que le gouverneur a lancé son engagement de pouvoir nous aider à nous installer, d'abord mais aussi de voir comment est-ce que les procédures UNICEF vont être respectées, différentes divisions avec lesquelles on va travailler.
Actualité internationale.
Au Soudan, les forces de soutien rapide du général Hemedti sont accusées de se livrer à des massacres des civils dans plusieurs villages d'Al Jazeera dans le centre du pays. Les bilans humains sont difficiles à établir. Des sources locales évoquent des centaines de morts.
L'invité.
À Goma, une cinquantaine d'éléments de la police MONUSCO et de la police nationale congolaise sont sensibilisés à la prévention contre les cancers du sein et sur les bien-être de la santé sur les lieux du travail. C'était lors d'une séance de deux jours initiée depuis vendredi par le secteur UNPOL de Goma à travers son réseau de femmes de la MONUSCO. Nous recevons la chef du secteur UNPOL et coordonnatrice de ces réseaux pour en parler. Écoutons les commissaires divisionnaires Dorothy Nguanyama dans cet entretien qu'elle a accordé à Bernardin Nyangui.
Madame la commissaire divisionnaire Dorothy Wanyama, bonjour.
Bonjour monsieur.
Aujourd'hui vous avez réuni les policiers mais aussi d'autres cadres où vous êtes en train de parler du cancer de sein et aussi de bien-être en milieu du travail. Pourquoi ce thème aujourd'hui?
Ce thème de sensibilisation sur le cancer de sein et le bien-être de la santé mentale au lieu de travail, parce que dans le monde entier, le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation sur la santé mentale et sur le cancer du sein. Donc c'est un mois international dédié à cette sensibilisation. Nous, UNPOL, Réseau des femmes de Goma, avions choisi cette date pour sensibiliser tous ceux qui sont autour de nous. Vous avez dû constater qu'il n'y avait pas que des UNPOL, il y avait d'autres personnels de la mission, tout comme nos confrères de la PNC, qui sont nos partenaires prioritaires, qui étaient invités à cette sensibilisation.
Est-ce que mélanger à la fois les hommes et les femmes, le cancer des seins concerne plus les femmes que les hommes, je pense?
Ça, c'est une idée erronée que beaucoup ont. Mais le cancer des seins ne concerne pas que des femmes. Ça concerne les hommes aussi. D'ailleurs, le médecin a dit qu'il y a un pourcentage des hommes qui sont affectés par le cancer du sein. En plus de ça, si vous êtes homme, vous êtes impliqué directement ou indirectement. Vous avez une épouse, vous avez une mère, vous avez une fille, vous avez une sœur, vous avez une tante. Donc, sensibiliser sur le cancer du sein n'est pas que aux femmes, mais ça concerne tout le monde.
Et donc, aujourd'hui, c'est une journée de sensibilisation, mais aussi, vous en avez profité pour faire cet appel-là, pour que tous les participants puissent s'impliquer dans cette sensibilisation.
Exactement. Parce que le plus tôt quelque chose est détecté, le plus tôt, de fortes chances d'avoir une solution à cela. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Raison pour cette sensibilisation.
Est-ce qu'il y a des conséquences si le cancer n'est pas détecté à temps?
Bien sûr, les conséquences sont graves. Vous avez appris que le cancer des seins est le numéro un tueur des femmes. Donc, au cas où ce n'est pas bien détecté à temps, on est exposé au risque de la mort. Et beaucoup de femmes ont déjà souffert. C'est pour ça que le monde entier, le mois d'octobre, est dédié à cette sensibilisation. C'est que les anglophones vont appeler « breast cancer awareness » pour que nul n'en ignore.
Et donc, aujourd'hui, vous avez sensibilisé sur le cancer des seins. En tant qu'employé des Nations Unies, en milieu de travail, qu'est-ce que cette sensibilisation ou à quoi est-ce que ça peut contribuer?
Cette sensibilisation est très importante du moment où le travail que nous faisons implique beaucoup de stress. Nous travaillons, on a autour de nous le stress. Il faut savoir gérer ce stress. À travers cette sensibilisation, les uns et les autres ont appris des différentes méthodes qu'il faut appliquer pour pouvoir gérer le stress. Quand le stress est géré, ça joue énormément sur le rendement. Le output est amélioré à l'intérêt de la mission.
Et qu'est-ce qui va suivre après cette sensibilisation? Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou bien on se limite là?
Après cette sensibilisation, tous ceux qui ont participé sont appelés à partager ce qu'ils ont retenu comme message. Ils doivent propager ça, diffuser ça le plus possible pour que ensemble, nous essayons d'aider pour lutter contre ces maux qu'on a appelés cancer de sein.
Commissaire divisionnaire d'OTI, merci.
Merci monsieur. Merci vraiment pour votre participation.
Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Radio Kapi. Merci à Billy Landry Betou d'avoir assuré sa mise en onde et à Alain Irung Mochinge de l'avoir préparé pour vous. Je suis Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous de nous avoir suivis.